Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Tanguy Barry. Tanguy, bonjour.
Salut Benoît.
Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas en quelques mots ?
Eh ben avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Et ensuite, moi, je suis agent de développeur. C'est un recruteur inversé. Tu connais un agent de foot, je fais exactement la même chose, mais pour un tech. C'est-à-dire qu'on discute, on dresse le bilan de où t'en es aujourd'hui, de quels sont tes objectifs pro et perso. C'est souvent très lié. S'il y a besoin, j'irai te chercher un job fidèle aux critères qu'on a définis ensemble. Et ensuite, je suis toute ta carrière depuis le process, l'onboarding, les entretiens de fin d'année, etc.
Et j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui de l'état du marché. C'est un truc que j'aime bien toujours faire et quand j'ai l'occasion de parler avec un recruteur. Et là, aujourd'hui, on est le 18 mars et je trouve que le marché est devenu complètement cinglé. Alors, quand je dis ça, j'ai toujours un double aspect, moi, dans ce que je fais. J'ai le côté entrepreneur où j'embauche des salariés et des collaborateurs développeurs.
Ouais.
Ça, c'est dans le cadre d'Agilité, ma petite structure de mon petit studio de développement. Et en même temps, j'ai toujours ce regard de développeur, te dire, ah putain, c'est pas mal de voir les choses qui évoluent dans le bon sens. Alors, je te dis mon analyse et tu me dis ce que t'en penses et qu'est-ce que tu vois, toi. Moi, je vois les gars, ça commence à pousser un petit peu parce qu'ils commencent à recevoir des putains d'offres, mais des offres de maboule. Jusqu'à maintenant, Agilité, on avait un espèce de petite arme secrète qui donnait un avantage incroyable, c'est que tu pouvais bosser depuis où tu veux, avec les horaires que tu veux, il y avait une vraie souplesse, le télétravail, c'était vraiment intégré, ça fait 4 ans qu'on a cette culture-là. Et le Covid est venu un petit peu nous manger cet espèce d'avantage compétitif qu'on a, parce que je vois des tas de boîtes qui maintenant commencent à ouvrir les chakras. Alors, t'en as un paquet qui se sont rendus compte que ça marchait mieux. Après, t'as toutes celles qui l'acceptent pas et qui veulent revenir à des modes command and control. Mais t'en as quand même pas mal qui ont compris que ça marchait mieux en remote, surtout pour les devs. Et je vois une espèce de vague arriver où les gars se font chasser avec des salaires, mais de malades, du 50, 60, 70K pour du 5 ans, 10 ans d'expérience. J'ai l'impression que, tu vois, il y a des boîtes qui sont sous stéroïdes, là, qui viennent de faire des levées à coups de millions. Les gars, ils sont prêts à cramer tout ce qu'il faut et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont morts de faim. Alors, est-ce que c'est marginal? Est-ce que c'est un vrai mouvement de fond? Quel est l'impact du Covid et du télétravail? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois, toi?
Ouais, sur ce point du remote, je suis assez d'accord avec toi. Bon, alors, effectivement, ça va dans le bon sens parce que le télétravail qui se généralise, c'est plutôt un bon phénomène. Mais au moins, on a une, comment dire, t'as plus de secteur géographique propre, en tout cas beaucoup moins. Donc, par exemple, si t'es un développeur et que t'habites dans le Jura, qui est pas forcément la région où le salaire sera le plus élevé de base en France, bah, tu vas avoir une boîte potentiellement parisienne, donc qui paye mieux que la plupart des autres boîtes françaises, qui peut te proposer un salaire parisien, tu vois, alors que tu habites au fin fond du Jura. Donc il y a ce phénomène, et effectivement, ça fait monter un petit peu les salaires. Il y a un autre phénomène, et d'ailleurs, ce serait important de voir si les propals que tes gars reçoivent émanent de boîtes françaises ou pas, c'est que justement, les boîtes étrangères viennent chasser du français. De plus en plus. Et dans les pays anglo-saxons, les salaires sont plus élevés qu'en France. Donc forcément, la tentation est forte.
Mais du coup, les gars sont recrutés en direct ou ils te demandent d'avoir un espèce de statut dans ton pays, te débrouiller et tu envoies juste une facture tous les mois?
Non, tu peux clairement être recruté en direct. Ouais.
Carrément.
Ouais, bien sûr.
Donc tu peux avoir une fiche de salaire par une boîte US ou un truc comme ça, quoi.
Absolument.
Mais du coup, ton contrat, il est de droit français, il est de droit US, ça marche comment?
Alors, très souvent, c'est pas de droit français. Si la boîte est aux États-Unis, c'est pas de droit français. Et ouais. Donc, il y a ce phénomène-là. Après, est-ce que c'est pour le meilleur, pour le pire? Franchement, je pense qu'il est un peu tôt pour tirer ce genre de conclusion. Cependant, ça veut aussi dire que peut-être que nous, les boîtes françaises, quand on cherche, alors, les catégories des experts, les mecs sont vraiment très bon sur leur créneau, bah, faut peut-être mieux les payer. tu vois? Et on peut partir dans le débat, est-ce que contributeur individuel, entre guillemets, égale manager? Ce qui n'est pas forcément le cas dans la culture française, tu vois. Mais dans l'autre sens, des boîtes étrangères ou avant-gardistes en France se mettent à payer énormément pour le gars qui a entre 5 et 10 ans d'expérience, qui n'est pas forcément non plus hyper reconnu dans son créneau, mais qui sait ce qu'il fait, quoi. Tu vois?
Et alors, c'est quoi les salaires que tu vois? Les salaires dont tu me parles à 50, 60, 70K, c'est des trucs exceptionnels ou finalement maintenant c'est
Non.
quasiment monnaie fréquente?
Non, non, ça me choque pas du tout.
Ah
Quand tu
ouais,
me
quand
dis
même quoi.
50K, j'ai envie de te dire oui. Tu parles de 3-4 ans d'expérience, tu vois, à Paris. Donc
Ok.
c'est OK. 70K, souvent, faut aller les chercher. Quand même, parce qu'il y a un vrai gap et il y a de vraies exigences, tu vois. Donc même si tu es un très bon développeur, il y a une manière de passer les entretiens. Si tu veux dire, en gros, on va te faire des petits trucs à la Google où tu as intérêt à t'être accroché, à un petit peu réviser les algos pour passer. Au final, je pense qu'il y a presque un double métier maintenant. Il y a ton métier de tous les jours et le métier de savoir passer les entretiens.
Ouais, j'ai vu, il y a des chaînes qui explosent sur ça, il y a des mecs qui font des millions sur ça.
Ah ouais?
Et ouais, sur
C'est génial.
en langue anglaise, t'as des mecs qui sont spécialisés. J'ai repéré notamment deux chaînes sur ça. Les gars te préparent, c'est des anciens de Google, Facebook, Amazon, qui te préparent à passer ces entretiens-là. Alors moi, je suis convaincu d'un truc, mais je sais pas à quel point c'est encore valorisé par le marché et la demande. Quelle est la place des soft skills pour toi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, un sujet? Est-ce que finalement, en fait, on s'en fout, les gars, les boîtes, ce qu'elles regardent, c'est surtout le niveau tech? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça?
Non, c'est hyper important, surtout dans les boîtes qui se construisent vraiment. Donc, start-up, scale-up, celles qui viennent de lever des fonds aussi, à un moment ou à un autre, parce que même si on sait qu'on a besoin de mecs qui sont vraiment bons, tu vois, donc les hard skills doivent être là, c'est normal, il y a une vraie volonté de tirer dans le même sens, d'accomplir quelque chose en équipe. Et si bah, t'as la moitié de l'équipe qui se dit ouais bon je suis là pour l'argent, je code un petit peu, je me marre techniquement, mais après c'est bon, je m'investis pas trop, bah t'arriveras pas à grandir aussi vite. Donc ça ouais c'est extrêmement important.
Et comment c'est jaugé en entreprise? Qu'est-ce que tu vois? Ils font des tests de personnalité?
Il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus. Bah, tu connais forcément Assess First, boîte qui explose
Non, non, pas
tout
plus
le
que ça,
temps.
non.
Ah ouais? Bah, Assess First, ils font ça, en gros. Ils sont capables de prédire ton potentiel de réussite dans telle équipe via ta personnalité avec des tests.
Waouh, c'est
Oui,
chelou
après,
ça.
c'est un grand débat. C'est un grand débat. Toujours est-il que c'est extrêmement utilisé. Ça.
Non.
Et après, bah, tu as de toute façon bon, les entretiens structurés, d'accord, on va les mettre de côté parce que c'est encore une pratique peu démocratisée. Sinon, bah, ça se juge, quoi. C'est voilà, tu vois, c'est est-ce que tu es motivé de ça, ce secteur, ça te plaît, ce qu'on fait, ce genre de truc? Oui, ok, tu vois. Et si tu sais te vendre en entretien, tu as nettement plus de chances.
Et si tu veux taper au-dessus des 70, il faut faire comment? Allez, on va taper la barre des 100K. Comment tu fais pour passer à la barre des 100K?
Ok, passer la barre des 100K, c'est vrai que c'est chaud. Moi, j'ai discuté, enfin, là, dans les 3 dernières semaines, donc c'est tout frais, avec pas mal de gens, entre guillemets, experts. Donc, c'est des mecs qui sont là depuis une quinzaine d'années d'expérience, même si t'as pas besoin d'avoir 15 ans d'expérience pour être expert, mais qui savent, ont un bon track record, on va dire ça comme ça. Malheureusement, eux, ils partent à l'étranger. Parce que c'est quand même assez dur, de justifier 100K quand tu n'es pas manager. Sinon, il faut que tu sois manager. Et aujourd'hui, il y a 2 semaines, j'ai accompagné quelqu'un qui a un salaire à 105K. Donc, on a tapé la barre des 100. Il est manager. Et c'est pour l'instant le seul tech qui s'est vu proposer un salaire au-dessus des 100K. Et c'est parce qu'il y a la partie management. S'il était juste expert technique, c'est mort. Il n'y a pas.
Ok, donc si on veut taper au-delà, il faut aller chercher sur de l'expertise tech, il faut aller chercher des boîtes anglaises, quoi, américaines ou un truc comme ça.
Ouais, exactement. J'ai l'expert technique le mieux payé avec qui j'ai discuté, c'est 89 000 euros aujourd'hui en France.
Brut.
Oui, brut.
Si demain je devais aller sur le marché du travail, un développeur qui a 20 ans d'expérience.
Quel techno? Parce que plus ta techno est rare, plus tu vaux cher.
Non, mais tu recommences à faire ton recruteur de base à me poser la question de la stack.
Ben oui, mais je suis navré. Mais regarde une entreprise. On,
Bon,
je suis une
attends, on
grande
va le faire.
entreprise.
Arrête, 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 arrête. Ok, quelle techno tu veux? C'est quoi la techno qu'il
N'importe.
faut pour être.
N'importe, regarde. En fait, plus ta
Non, mais
techno
tu
est
viens de me
rare.
dire qu'elles selon la techno, c'était plus ou moins rare. C'est
Bien
laquelle la
sûr.
plus rare et qui est valorisée?
Toutes les technos que. Bon, alors, si je te parle de ce cas-là, évidemment, c'est très valorisé. Là, le gars qui est à 89 000, lui, il fait du Golang.
Ah, mais attends, tu me parles. Ouais, j'allais dire du Scala, tu vas me parler de quoi là? C'est quoi les clients? C'est des banques, c'est la SOG, c'est la BNP?
Il peut y avoir de tout. Il y a même des petites sociétés de conseil dont les clients ne sont pas forcément des fintechs ou des banques.
Et donc le mec qui a les 100, enfin pas loin d'un gros salaire là, il est en Golang, il a réussi à trouver. C'est
Ouais,
trop bien ça.
exactement. Celui-là, il a réussi à trouver. Ouais, je me jette un peu de fleurs, j'avoue que j'étais là, j'avoue, j'avoue.
Ok. Ah, t'as raison, c'est le podcast,
Exactement.
tu peux.
Mais sinon, oui. Ouais, c'est du Golang en majorité.
Ok, donc si jamais. Donc, imaginons que je suis expert Golang, 20 ans d'expérience, alors pas en Golang, hein, mais
Oui, évidemment.
20 ans d'expérience et je sais pas, 1 ou 2 ans d'expérience sur Golang, qu'est-ce que je peux aller choper comme salaire?
Alors, peut-être pas autant, mais 70, je pense que c'est tranquille, hein. Là-dessus, ouais, sans problème. On parle de Paris, pour le coup.
Ouais, non, mais moi je te parle de poste en remote.
Bah, tu me diras, il habite à Paris et il est en remote presque total, de toute façon, en ce moment, total. Allez. Ouais, je pense que ça passe quand même. En vrai, ça passe quand même. Il y a tellement de pénuries sur cette techno en particulier que ça passe.
C'est dingue parce que j'observe le marché et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de contradiction avec un marché qui est ultra bouché pour les juniors. Et une putain de pénurie pour les seniors, en fait. Il y a l'impression qu'il y a une espèce de 0-2 ans, c'est la vallée de la mort la vallée de la mort, quoi. S'il faut que tu t'accroches, que tu tiennes et...
C'est extrêmement dur. Je suis d'accord avec toi, le marché est 100% déséquilibré. Il y a autant de devs expérimentés que pré-Covid, en fait. Tu vois? Sauf que maintenant, on ne veut que ça. C'est très rare de voir une boîte qui se dit, je suis OK pour, entre guillemets, prendre le risque et prendre le temps d'embaucher un junior. Pourquoi? Je ne sais pas. Autant il y a un an, on était en plein premier confinement, on ne savait pas trop où on allait, qu'est-ce qui va se passer. On gèle tout et on devient allergique au risque, à tout point de vue. Bon, ok, je me suis dit, ça ne va pas durer longtemps, on va revenir sur des basses saines. Non, c'est faux pour le coup. Aujourd'hui, c'est hyper dur et je pense qu'il n'y a pas de pénurie de juniors. Si c'est peut-être pour ça. Là-dessus d'ailleurs, je pense que tous les juniors galèrent, que tu sortes d'une école d'ingé ou que tu te reconvertisses, tu vois, parce que t'as pas du tout les mêmes armes.
Et toi, ton modèle, alors tu disais je suis agent développeur, ton modèle, comment ça marche? Qui c'est qui te paye?
Alors, c'est la boîte qui me paye.
Ouais, mais du coup, comment tu règles ta contradiction? Parce que si c'est la boîte qui te paye, tu vois, moi, le jour où j'ai envie de bouger, tu vas pas me retrouver un nouveau poste parce que tu vas te fâcher avec la boîte. Comment tu gères si la boîte t'a filé un gros chèque pour me recruter? Le jour où je te dis, Tanguy, écoute, ça fait 2 ans, j'ai envie de changer d'air. Et toi, tu vas te fâcher avec la boîte si jamais tu vas me trouver un autre poste. Comment tu gères ça?
Ouais, alors pour l'instant ça m'est pas encore arrivé parce que je n'ai pas
Puisque tu
Exactement.
démarres.
Cependant, dans mes contrats, il y a effectivement une clause de non-agression. Tu vois, donc je ne dois pas faire de chasse sur les salariés de la boîte. Alors ça tombe bien, je ne fais jamais de chasse. Tu vois, de toute façon, quand c'est quelqu'un que j'accompagne, tout se passe intelligemment avec l'entreprise et l'entreprise a clairement les données hein, si jamais ça se passe moins bien. Et je suis le premier à les appeler pour leur dire écoute, là, l'onboarding, les moyens, tu vois. Donc ça, il y a une vraie relation, c'est vraiment intelligent. Au final, on partage tous l'information, les trois parties, donc le tech, la boîte, moi. Ensuite, pourquoi la boîte me paye? Ben parce que c'est le seul business model qui marche et qui est accepté aujourd'hui pour des CDI. Pour des freelances, pas de problème, tu vois, et ça marcherait plus ou
Ouais,
moins.
sur les freelances, tu peux te prendre une com.
Exactement, tu vois, mais tu vas pas dire à un dev qui a, on s'en fout, quelques années d'expérience, tu vas pas lui dire file-moi 10 000 euros pour que je te trouve un job, tu vois. Non, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, je ne peux pas me résoudre à demander de l'argent à quelqu'un qui cherche un travail. Et puis, faut pas abuser. Ce qui est important, c'est la démarche. Au final, qui est totalement inversée. Il n'y a aucune boîte pour laquelle je vais faire de chasse. Tu vois? Sinon, je serai recruteur. Je serai, comment dire, assujetti à cette entreprise, plus ou moins. Je discute d'abord avec un tech. On voit où il en est. Si besoin, on se dit OK, il faut changer de poste. Définissons les critères du poste entre guillemets idéal. Let's go. À moi de le trouver, de prendre contact avec l'entreprise, de faire tout ce qu'il faut pour que le process se passe bien, ainsi de suite. Tu vois?
Et du coup, ça veut dire que tu acceptes de passer du temps à aider, à orienter des gars qui vont pas forcément être utiles tout de suite. Tu mets de l'énergie pour plus tard, quoi. Le jour où ils auront vraiment envie de bouger, ils penseront peut-être à toi, quoi.
Ouais, voilà, déjà, et puis même si jamais c'est pas de l'énergie pour plus tard, c'est juste de l'énergie comme ça et j'en retire aucun avantage entre guillemets financier, c'est pas grave, tu vois, je fais pas ce métier pour l'argent. C'est bien de gagner de l'argent, tu vois, parce qu'il faut vivre normalement, mais à la base, je fais ça parce que j'ai envie que les gens kiffent leur métier, tu vois. Ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là.
Non, c'est clair que c'est pas le cas. Ouais. Du coup, dans le contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un développeur qui se pose la question de est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas?
Franchement, je pense qu'il faut en parler autour de lui avec des gens qui, un, connaissent la tech et deux, connaissent le recrutement pour pas se lancer bille en tête. Bon, ok, ça me saoule, vas-y, je démissionne et on verra, tu vois. Parce que ce genre de choses, finalement, ça se réfléchit dans le sens où bah, quand tu changes de métier, c'est une part de ta vie qui change aussi, tu vois. Et ton job a quand même une incidence non négligeable sur ta vie, qu'elle soit pro ou autre, hein, à un moment ou à un autre. Donc tu prends le temps de réfléchir et surtout tu prends le temps de chercher tes relais de motivation, les vrais. Si c'est la thune, bon, bah, j'ai envie de te dire, change de métier, va au plus offrant, tu vois, va en ESN. Voilà, il y a des bonnes ESN, pas de problème.
C'est rigolo, ça. J'aurais cru qu'en ce moment, c'était plutôt les éditeurs qui payaient mieux. Je dirais plutôt la startup scale-up. Je pense que c'est elle qui a aujourd'hui a le plus de cash
Bah, celle
et
qui
le
fait une
plus
levée
en
de fonds.
main.
Celle
Ouais,
qui fait
c'est
une
ça.
levée de fonds, let's go. Ah bah oui, non mais d'accord. OK. Mais après, tu vas pas changer de scale-up tous les 6 mois, quoi, ou tous les ans. Sinon, ça se voit. À un moment.
Non, mais une startup qui lève 10 millions, elle a un an ou deux d'elle devant elle, non?
Oui, sans problème. Mais si tu fais ça deux, trois fois, tu vois, on va te demander pourquoi tu restes un an et demi dans chaque scale-up. T'es censé plus ou moins y croire, tu vois, à un moment ou à un autre, ça va se voir et on va se dire, bon, t'es un peu instable.
Ouais, un petit côté chasseur de primes qui risque d'émerger, quoi, ça.
Exactement. Et si ton objectif c'est que l'argent, lance-toi en freelance. Voilà. Et c'est tout pour le coup, parce que tu gagneras normalement plus.
Ben, je pense que c'est assez clair. Merci Tanguy d'être venu aujourd'hui. Je crois qu'on a mangé la boîte de temps. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus, apprendre à te connaître, ils peuvent venir où?
Eh ben écoute, je n'ai pas de site web parce qu'il n'en a pas besoin, mais j'ai un LinkedIn ainsi qu'un mail, un téléphone, et je promets de répondre à tout le monde.
Ok, on mettra le lien dans la description de l'épisode. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Comme toujours, mets-nous une bonne note dans ton application de podcast favorite. Ça aidera le podcast à se faire découvrir par d'autres personnes. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!